IA et moi, et vous et nous. Un podcast sur les intelligences artificielles génératives, présenté par Jacqueline Pinon et Sébastien Beaujeau.
Bonjour Seb.
Bonjour Jacqueline.
Troisième numéro.
Déjà.
Troisième podcast pour essayer de comprendre ce monde incroyable de l'IA. Alors oui, pour toi c'est fantastique.
On revient. Pas pour tout le monde, mais effectivement, je te rassure.
Tu vois, à chaque fois qu'on en parle, même en rédaction tout à l'heure, ça fait un peu peur pour certains. Nous, on est parti d'un constat, d'un postulat, certes. L'IA, on ne sait pas jusqu'où ça ira, oui. Et il y a sans doute plein de boucliers à mettre en place
bien
qui
sûr,
ne le sont pas encore. De toute façon, force est de constater qu'on est obligé de faire avec. Et donc, c'est bien le but de ce podcast, c'est de se dire qu'on va essayer de comprendre comment ça marche. Et à chaque fois, là, on va passer peut-être à des
cas d'usage.
Des cas d'usage, voilà. Merci.
Qu'on comprenne bien ce qu'on peut faire ou ne pas faire, d'ailleurs, avec ces outils-là.
Par exemple, quand je dis merci, quand je me trompe, tiens, est-ce que tu aurais une IA directe qui me corrigerait?
Non, pas encore, mais ça va venir.
Alors aujourd'hui, on a évidemment ChatGPT.
Oui.
C'est ce que je voulais te dire aussi. C'est de se dire qu'en fait, une IA générative, à chaque fois tu insistes bien, c'est en fait...
Alors, je fais juste une petite parenthèse par rapport à ça, qu'on comprenne bien aussi, parce que des fois on me pose la question, pourquoi intelligence artificielle générative? Tout simplement parce que générative de texte, de visuel, d'audio, de musique, etc. Et ça génère quelque chose. On fait une instruction, une commande, et derrière, ça génère quelque chose. C'est
voilà.
Pour ça qu'on appelle ça intelligence artificielle générative.
Et ce que j'allais te dire, pour moi, en fait, une IA, elle aboutit au bout du compte à une appli, en quelque sorte.
Oui, c'est une sorte de logiciel, de plateforme Internet sur lequel on va et avec lesquels on peut converser.
Alors à chaque fois, on se disait aussi, lors de la première émission, on peut aller sur un moteur de recherche, faire une recherche, et on a plein de possibilités qui s'ouvrent à nous en fonction de notre demande d'information. Là, en fait, à chaque fois, la réponse est plus personnalisée.
Alors oui, ce qui change en fait, c'est que ça modifie notre façon d'aller chercher l'information sur Internet. Ça fait 20 ans qu'on utilise Google, qui est un moteur de recherche. Alors, qui ne le sera plus dans les mois à venir, mais on va quand même le dire, c'est un moteur de recherche. On pose une question à Google, on a 12 millions de liens, on fait notre recherche. On appuie sur un
Google
lien, on revient.
Ou un autre, hein.
Google ou Yahoo, il y en a de moins en moins qui sont des moteurs de recherche.
Ouais, c'est vrai.
Là maintenant, on arrive à des moteurs de réponse. C'est quoi la différence? C'est qu'on pose une question, pareil, et derrière, on a un bloc réponse. Ça veut dire que l'IA générative a fait une recherche à notre place, nous propose un bloc réponse avec des sources à l'intérieur. Mais déjà, on a gagné un petit peu de temps, pas de lien sponsorisé, pas de vidéo, pas d'image, c'est épuré. Et ça, ça plaît beaucoup les moteurs de réponse comme ChatGPT, comme Mistral, donc on aura l'occasion d'y revenir, et comme un autre outil qui s'appelle Perplexity, dont on entend parler aussi de plus en plus dans ce monde merveilleux.
Et qui nous laisse perplexes ou pas?
Qui peut nous laisser perplexes.
Alors, on va les cas d'usage justement.
Ouais.
L'orthographe, forcément, en tant que journaliste, quand je tape un texte, je ne sais plus sur quel... tu vas me dire...
Sur Word,
ou
n'importe.
Ça doit être sur Word, je sais
pense.
Pas, je suis tellement habituée. Bon, bref, j'ai un correcteur, ce que je n'avais pas à une époque, d'ailleurs, ce qui m'obligeait à réfléchir et à reformuler dans ma tête mes règles de grammaire, tout simplement. Depuis que j'ai ce correcteur, ça date un peu, je te rassure, tout est corrigé. Sauf que finalement, est-ce que tout est si bien corrigé? Je n'en sais rien, il y a peut-être des coquilles. En tout cas, je suis moins, sans doute, concentrée sur mes possibles fautes d'orthographe. Comment ça marche avec l'IA?
Alors, comment ça marche avec ChatGPT? On va prendre celui-ci, ça marche aussi avec les autres, parce que ChatGPT, c'est la tête de gondole, c'est le plus connu. En tout cas, pour l'instant. Alors, ce qui marche pour un ou une journaliste peut marcher pour tout le monde. Ça veut dire qu'on peut aussi se retrouver dans le monde de l'entreprise, faire un mail, répondre à un mail. On n'est peut-être pas forcément sûr non plus de la partie orthographique et grammaticale. On peut simplement copier-coller le contenu qu'on a écrit, lui donner à ChatGPT, lui dire, ben voilà, tu me corriges les fautes d'orthographe que j'ai pu faire dans ce texte-là. C'est un agent conversationnel. Faut bien avoir ça en tête. Ça veut dire qu'on pose une question, on lui passe une commande, une instruction générative, comme on aime à le dire, plutôt que prompt. Instruction générative, ça veut dire que je lui donne une instruction et elle me génère quelque chose. Là, je lui dis, tu me corriges mon texte. Donc, pas de souci.
Alors, deux
elle va le corriger.
Ouais. Alors, deux choses, Sébastien. Moi, j'ai déjà un correcteur qui fonctionne pour ça. C'est quoi la plus-value là, de ton IA?
Alors, ça veut dire que derrière, tu peux aller un petit peu plus loin. Ça veut dire qu'effectivement, ChatGPT peut te recorriger, donc réécrire ton texte sans faute d'orthographe. Mais je pense qu'il est plus intéressant de converser avec l'outil, de lui dire, par exemple, ce que tu peux pas faire avec ton correcteur, de lui dire, je préfère que tu me dises où j'ai fait les fautes d'orthographe dans mon texte, et sous forme de liste à puces, par exemple. Et tu me dis pourquoi. Des petites listes à puces. Et tu sais pas ce que c'est que des listes à puces.
Non, je sais pas ce que c'est que des listes à puces.
Alors, on va commencer par un cours d'informatique.
Non, mais j'en ai aucune idée. Non, ou alors ça va me parler tout de suite après.
Oui, la liste à puces, c'est quand c'est le petit tiré, en fait.
Moi, j'aurais dit mais des petits tirets.
Ah ouais, ça s'appelle des listes à puces. Et tu dis donc à l'outil, tu me réécris pas le texte, tu me montres où j'ai fait mes fautes d'orthographe, tu m'expliques pourquoi j'ai fait des fautes d'orthographe, et après, moi, j'irai corriger dans le texte original.
Voilà, parce que si j'avais le meilleur prof de français à côté de moi, il m'expliquerait, me redonnerait ma règle, celle que j'ai apprise, peut-être oubliée ou que je n'ai jamais comprise. Et il pourrait justement me la réexpliquer, me la faire comprendre. Est-ce que, comme un véritable assistant humain, là on a un assistant technique, numérique, mais est-ce qu'il va aussi loin que ça? Est-ce que je peux lui redemander la règle qui me manquait?
Exactement. Ça veut dire que c'est effectivement sur une règle que tu ne comprends pas, tu peux lui demander qu'il t'explique la règle.
Mais est-ce qu'il va me l'expliquer aussi intelligemment que le meilleur prof de français que j'aurais eu à côté de moi et qui va comprendre mon raisonnement pour mieux m'aider?
Je ne sais pas, il faut tester. Maintenant, je ne sais pas à quel niveau est le meilleur prof.
Et je vois
que tu as
envie de me dire oui,
ouais,
mais que tu n'oses pas.
Oui, bien sûr, j'ai envie de te dire oui.
Et moi, j'ai envie de te dire non.
Après, il y a le côté humain qui joue, effectivement. Il y a le côté empathique de l'humain qui va jouer, effectivement, que tu n'as pas forcément quand tu as le rédactionnel de l'outil.
Et vraiment, je te pousse un peu dans tes tranchements, Seb, mais c'est vraiment qu'un enseignant va connaître son élève, va essayer de le comprendre, tu vois, pour vraiment apporter la meilleure réponse dans sa compréhension.
Ils n'ont pas toujours le temps de faire ça.
Non, mais si, dans un monde idéal.
Dans un monde idéal.
On n'y est pas dans ce monde idéal, mais n'empêche, tu as beaucoup de profs qui font cet effort-là.
Évidemment. C'est pour ça que moi, je mets l'humain au cœur de l'appropriation de ces outils. Ce sont des compléments, des assistants numériques, mais ça reste des outils et ça reste des assistants. Et que ça ne doit pas dépasser les capacités humaines. Je parlais d'empathie. Quand tu as un professeur avec toi, oui, évidemment, potentiellement, tu vas mieux comprendre quand tu vas discuter avec ton professeur qui, sans doute, lui aussi, te connaît mieux.
Mais attention,
ces outils-là sont en capacité aussi, quand on converse régulièrement avec, de comprendre aussi où on en est au niveau intellectuel, où on en est au niveau de nos compétences. Mais je milite à 200% pour que l'humain soit au cœur de l'appropriation. Ça reste que des outils.
Voilà,
et mieux vaut un beau, très très bon prof de français qu'une IA générative.
Voilà, d'autant quand on sait comme le français est riche, et compliqué à la fois.
C'est juste cette partie-là. C'est-à-dire qu'ils sont techniquement capables de te répondre sur tous les sujets et d'aller très, 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 très loin. Mais il leur manque encore cette partie empathique.
Ouais, ça me rassure beaucoup, je te l'avoue.
Et j'espère qu'ils ne l'auront jamais.
Et alors voilà pour le français. On peut parler. Oui, mais je vois bien. On parle aussi, par exemple, de la traduction.
C'est ça. C'est-à-dire qu'on peut très bien aussi lui donner un texte et lui dire tu me le traduis en anglais, tu me le traduis en espagnol, tu me le traduis en allemand. On aurait fait ce podcast il y a un an et demi, deux ans, je t'aurais dit attention au niveau de la traduction, c'est pas toujours juste, etc., etc. Ce sont des modèles évolutifs. Ça veut dire qu'ils progressent chaque semaine, mais non, chaque jour, ils progressent. Et maintenant, même en traduction, ils sont très forts. Ils peuvent traduire dans n'importe quelle langue, que ce soit le chinois, le japonais,
etc. Alors, je t'avoue, récemment, moi, j'ai conversé avec un partenaire en anglais par rapport à des droits sportifs au niveau du basket. Heureusement que j'ai fait vérifier et de une, la demande de cet interlocuteur, et de deux, les réponses que je lui avais faites par mon moteur de recherche, où tu sais, traduction, tu mets tes phrases, et que j'ai pu aller plus loin dans la discussion avec un prof d'anglais, parce que je pense vraiment que c'était loin d'être clair, surtout après, quand tu y mets un peu de juridique, etc.
Voilà, en fait, c'est des outils qui sont en capacité de te faire gagner du temps et de te dégager de la charge mentale. Mais derrière, effectivement, pour des sujets comme ça, qui peuvent être très techniques, très juridiques, attention, on ne copie-colle pas le contenu proposé, on va quand même vérifier les sources déjà sur lesquelles ils sont appuyés. Et puis tu as fait les bons gestes, j'ai envie de dire, les bons gestes d'aller.
L'humain était là.
Mais ouais, d'aller demander effectivement à un juriste et d'aller demander peut-être d'aller voir sur d'autres sites pour voir si effectivement la réponse que j'ai obtenue est la bonne. Et pensez bien aussi que c'est un agent conversationnel. On a trop tendance en fait, attention, à lui poser une question, il a une réponse et on s'arrête là. Non, faut continuer après derrière. Ça veut dire, je te donne juste un petit exemple concret par rapport à ça. Il te fait la traduction de ton texte, ou en tout cas, il peut te donner des règles juridiques, des lois par rapport à ce sujet-là. Il faut le challenger aussi. Ça veut dire qu'il faut lui dire, mais attends, où tu as été chercher tes sources, donne-moi tes sources, pour que moi je vérifie aussi si déjà les sources que tu as été chercher, elles sont fiables, parce que j'ai mes compétences métiers, je sais à peu près où moi j'aurais été chercher. Donc tu vois, il y a aussi un jeu de challenge entre lui et nous.
Oui, ça, c'est intéressant.
Et ça, on oublie assez régulièrement. On a un petit biais cognitif, on s'arrête à la question-réponse et on ne va pas plus loin. Non, il faut le challenger, il faut converser avec pour l'emmener plus loin.
Merci Seb. Si en préparant cette émission, on se disait que la prochaine fois, on essaierait d'être un peu plus ludique, puisqu'on parlera de...
On parlera de comment faire un conte pour enfants, par exemple. Comment on peut aussi écrire des chansons avec ChatGPT ou encore d'autres IA génératives. Et comment faire, c'est super important, ses propres recettes de cuisine.
Voilà, on va créer, on devient un chef...
3 étoiles, 4, 5...
Rien que d'y penser, ça me fait rire. N'est-ce pas, Hélène, qui nous écoute sans doute?
Et donc, bienvenue dans un nouveau monde.
L'IA et moi, et vous et nous. Un podcast sur les intelligences artificielles génératives, présenté par Jacqueline Pinon et Sébastien Beaujeau.